I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Raffut. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro, toujours accompagné de l'excellent Arnaud Beurdelet, journaliste au Midi Olympique. Salut Arnaud.
Salut Raph, bonjour à toutes, bonjour à tous. Poulain Raffut, hein, vous le savez, c'est le podcast qui raffute le rugby. Au menu aujourd'hui d'abord, comme chaque semaine, Raph nous servira son humeur du jour. Ce sera la ruade de Poulain dans la deuxième partie. Invité exceptionnel, nous aurons la chance de recevoir l'ancien trois-quarts centre international, Brian Liebenberg. Et enfin, dans la troisième partie, place au débrief façon Poulain-Raffut. Voilà pour le programme. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. Surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de la saison. Alors, vous êtes prêts? Poulain-Raffut, saison 6, épisode 11. C'est parti. Allez, première partie de Poulain Raffut. Raph, aujourd'hui, je crois qu'on va parler un petit peu de l'équipe de France. Tu as assisté à la victoire des Bleus samedi au Stade de France. Victoire pénible contre l'Australie, mais victoire tout de même. Mais je crois qu'il y a des commentaires qui t'ont mis un petit peu en colère, c'est bien ça?
En colère, j'irai pas jusque-là, mais bon, tu m'as un peu dérangé. Donc, tu vois, j'ai écrit ce petit post, un peu touché par les quelques bières bues au sortir du match. Samedi soir, je viens de passer une belle soirée avec quelques godets de rouge aussi, des petits fours bien dodus et autres canapés bien moelleux. J'ai la chance de partager ce moment avec Guy Akosseberry, Titou Lamaison, Pierrot Rabadan, Philippe Bernatsal, François Trinduc et bien sûr Victor Vito, le nouveau consultant de Derby, légende All Black, deux fois champion du monde, que j'ai d'ailleurs malencontreusement confondu face à la centaine de clients concentrés à l'écoute de mon speech. Mais bon, c'est passé crème. Allez, la soirée se déroule plutôt bien. L'équipe de France gagne, certes, sans vraiment grand panache, mais avec un exploit de Penaud qui m'a foudroyé son vis-à-vis. Une belle soirée et une victoire à la clé. La 11e. Et déception des supporters qui auraient aimé une victoire plus large, plus convaincante. J'entends qu'Entamac n'était pas au niveau, que l'équipe de France a balbutié son rugby, que Dupont n'était pas dans un grand soir, que Patin, que Couffin. Non mais, est-ce qu'on va se rendre compte quand même qu'on vient de jouer l'Australie? C'est quand même l'Australie qui joue ensemble depuis 3 mois, alors que les joueurs du 15 de France se sont retrouvés il y a à peine 10 jours. Tu n'avais pas l'équipe folklore des Carleurs de Tremblay en France non plus en face, c'est quand même, je le dis. J'ai entendu aussi dire, ça y est, les mecs ont gagné le grand chelem, ils se reposent sur leurs acquis. Les types sont sur le terrain, viennent de prendre des autobus pendant 80 minutes, ils ont ferraillé, ils ont tenté parfois maladroitement, certes, mais ils ont tout donné. Et nous, assis sur nos séants, bien molletonnés, au chaud, sous nos doudounes et autres couettes moelleuses dans nos canapés, au coin de la cheminée ou accoudés au rad, la biboche à la main, on se permet de dire qu'ils se reposent sur leurs acquis. Allons, un peu de décence. On se serait tellement bourgeoisé en tant que supporter après 11 victoires de rang qu'il nous faudrait des exploits à chaque action sous peine de clouer au pilori et de remettre en question le meilleur joueur du monde et toute sa clique. On a oublié bien vite ces années longues et douloureuses où les défaites encourageantes s'accumulaient. N'oubliez pas l'histoire et soyons un peu tolérants avec ceux qui nous font rêver depuis maintenant 3 ans. Soyons contents de nous retrouver le lundi matin à la machine à café, encore un peu bourrés de l'avant-veille au soir et joyeux de se souvenir comment nous avons tous sauté de notre siège à la limite du claquage tellement l'exploit était beau en voyant la percée de Damien Penaud qui délivrait la France et qui nous permet, fatigués mais contents en sirotant notre café latté, de nous dire qu'au match d'après, on va encore bien vibrer. Alors, comme le disait Victor Vito, et non pas Jérôme Queneau, il n'y a pas de petite victoire, nous rappelons celle des All Blacks face à la France en 2011 sur un score de 8 à 7. Il est donc grand temps de relativiser. Dans notre cher monde devenu incertain, vivre des émotions aussi belles que celles de samedi soir réconforte et nous permettent de nous dire que tout est possible et qu'il suffit d'y croire. Le sport nous offre la possibilité d'ouvrir le champ des possibles et doit nous inspirer à toujours y croire jusqu'au coup de sifflet final. C'était une victoire encourageante samedi soir. Et moi, je dis, vive la République et vive la France qui gagne même d'un petit point. À la vôtre, messieurs, dames. Passez une belle semaine et rendez-vous samedi prochain.
Voilà, le message, il est clair, il est passé maintenant. Raph, je te propose qu'on enchaîne directement puisque Brian Liebenberg est avec nous. On l'a dit, invité exceptionnel aujourd'hui dans Poulain Raffut, ancien trois-quarts centre, évidemment aussi de Grenoble, mais surtout du Stade français avec lequel il a remporté deux titres de champion de France. Et je crois surtout que vous vous connaissez bien, Raph, c'est bien ça?
On se connaît bien. Tu vas voir dans le portrait. Moi, quand j'ai vu débarquer Brian Osta, c'était une machine de guerre arrivant d'Italie, mais surtout d'Afrique du Sud. Donc, oui, je suis ravi de le recevoir. On s'est toujours bien entendu depuis des années, même sur l'après. Moi, j'ai suivi, justement, on va parler du ballon révolutionnaire qu'il a créé, qui, moi, m'aurait fait du bien, justement, et qui m'aurait peut-être appris à faire des passes à l'époque. Mais, et puis, il va nous parler de son nouveau projet qu'il a mis en place. En tout cas, moi, ma première question, Brian, c'est comment ça va?
C'est gentil, Raph. Je suis toujours très content de te retrouver. On se croise de temps en temps sur des événements et maintenant de participer aujourd'hui avec vous, ça me fait toujours plaisir. Donc, très content, tout va bien et je suis très content d'être avec vous.
Alors justement, avant qu'on poursuive ces échanges, messieurs, je vous propose, c'est le moment tant attendu par ceux qui nous écoutent, c'est le moment du portrait de Brian Liebenberg façon Poulain Rafud, c'est maintenant.
Souvenez-vous, l'un des premiers étrangers à jouer sous le maillot français, tout droit venu d'Oujda au Maroc, c'était Abdel Benazi, légende parmi les légendes, emblématique joueur d'Agen et capitaine de l'équipe de France, vainqueur du Grand Chelem 1997. Derrière lui, Peter De Villiers, Anthony Classen, Rory Cocotte, Bernard Leroux, Virimi Vakatawa, Paul Willemse, Scott Pelling et j'en passe. Depuis plus d'un siècle, de nombreux joueurs venus des quatre coins du globe ont pu jouer sous le maillot français. Ah oui, vous vous souvenez pas? En 1906, le poste d'arrière de l'équipe de France était occupé par un Anglais, William Crichton. Ça, c'est cadeau pour l'accent, Brian. Et ça n'est pas qu'une singularité française. On voit fleurir partout dans le monde rugbystique, de Nouvelle-Zélande à l'Angleterre, en passant par le Pays de Galles ou l'Irlande, des types venus de partout pour agrémenter de leur poids, de leur talent, de leurs origines, les lignes arrières et les packs de toutes les nations du ballon ovale. Brian, moi, je te revois encore arrivé au Stade français, tout droit venu d'Italie, comme j'expliquais, et surtout d'Afrique du Sud à l'été 2002. Et je crois qu'on s'est tous dit, c'est quoi ce bordel? Le mec fait 1m86, 110 kilos. En poids de forme, hein, Brian, hein, on est d'accord. Il peut jouer 10, 12, 15, même troisième ligne, une passe vissée de 20 mètres de chaque côté, un coup de pied à crever les gonfles à chaque dégagement et d'une gentillesse hallucinante. Une chose est claire, tu ne t'embrouilles pas avec Brian Liebenberg, non pas à cause de son gabarit impressionnant, mais parce que l'altercation verbale ou physique n'a aucun sens et n'a aucun lieu d'être. La confrontation hors terrain n'a aucun sens tellement il dégage de la sympathie. Non, ça n'a pas de sens, de s'embrouiller avec Brian. C'est une patte, un bon mec, gentil et serviable. Bref, le gendre idéal. Brian, c'est un grand chelem avec l'équipe de France, trois boucliers et une belle paire qu'il forme avec Stéphane Gla au Stade français et aussi avec Tony Marsh en équipe de France, un néo-zélandais et un sudave sous le maillot tricolore. Ça détonnait à l'époque. Après sa carrière, il a créé un ballon, je vous l'expliquais, révolutionnaire, qui permet pour les jeunes rugbyman en herbe d'apprendre le basique balle en main. Comme je te le disais, Brian, moi, j'aurais aimé que tu crées ce ballon 20 ans plus tôt parce que ça m'aurait permis d'apprendre à faire une passe et à taper correctement dans ce putain de ballon. Plus sérieusement, aujourd'hui, Brian a créé Cat and Sync Academy. L'accent, je sens qu'il est complètement pourri. Et tu vas nous expliquer, tu vas nous en parler, Brian. Je suis ravi de t'avoir dans Poulain Rafut aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous parler justement de cette aventure Cat and Sync Academy? Qu'est-ce que c'est exactement?
Donc, Raph, en gros, j'ai repris un petit peu la partie anglo-saxonne, donc catch and think. En fait, j'ai commencé après la carrière, comme vous le savez tous, et toi, Raph, encore plus, qu'après, il faut passer à autre chose, il faut trouver une autre voie un petit peu après le rugby. Donc, je me suis dit, je vais essayer de redonner. Et donc, j'ai créé un jeu sur un ballon qui était plutôt destiné à des écoles de rugby, à des jeunes joueurs, à démocratiser un petit peu le jeu, de rendre un peu plus facile. Et en même temps, au travers un jeu, on travaillait les techniques individuelles. Et ensuite, on a commencé comme ça, on a fait à peu près 170 clubs un peu partout en France. D'ailleurs, les gens, s'ils m'écoutent, je les salue parce qu'on a fait vraiment des belles rencontres dans le monde amateur qu'on n'a pas toujours la chance de côtoyer quand on est au niveau professionnel. Donc, c'était formidable. Et en 2017, on a rencontré des chercheurs et des personnes qui travaillent un petit peu plus, on va dire, sur le cognitif et le cerveau. Ils disent, mais Brian, est-ce que tu rends compte que ton ballon, il fait plus que juste un jeu? Et donc, ça nous a interpellés parce qu'ils ont dit, si les enfants jouent 20 minutes par semaine avec ton ballon, ils auront des meilleurs résultats à l'école. Et donc là, honnêtement, on a dit, ben, c'est quoi cette histoire? Et donc, on est parti, on est allé faire quelques recherches, on a fait beaucoup de rencontres. Je refais quelques études sur tout ce qui est les capacités attentionnelles. Voilà, et donc, petit à petit, avec toutes ces recherches-là, on a changé un petit peu ce qui était play ball. Et aujourd'hui, on appelle catch and think. Donc, catch and think, le côté anglais, c'est attraper et réfléchir. Donc, tout ce qui est neuromoteur, finalement. Et donc, en faisant ça, on entraîne le cerveau. Et en fait, justement, comme il nous expliquait la première fois quand on les a rencontrés, il y a beaucoup plus qui se passe dans le cerveau, ce qu'on croit quand on joue avec ce ballon. Et donc, voilà, ça a amené à un long parcours qui nous arrive aujourd'hui avec pas seulement ballon de rugby, mais basket, hand et foot. et on travaille dans des domaines complètement différents parce qu'on est tous concernés, on a tous un cerveau à des différents stades de notre vie, à niveau professionnel, personnel, toutes ces choses-là. Nos cerveaux ils sont impactés aujourd'hui et aujourd'hui, on ramène une sorte de solution ou un outil pour améliorer nos capacités attentionnelles qui vont nous servir à l'école, en entreprise, sur le terrain de sport et même des fois, on en parlera un petit peu peut-être, tout ce qui est commotion cérébrale et le déclin cognitif pour certaines personnes. Donc, voilà en gros un petit peu où on est.
Brian, est-ce que tu nous laisses entendre que finalement, et Raph l'a dit avec beaucoup d'humour, si ce ballon avait été créé il y a 20 ans, Raph aurait été notamment un meilleur passeur, mais aussi plus intelligent alors?
Plus intelligent, les deux. On essaie de travailler sur les deux côtés, aussi bien physique que dans le cerveau. Ouais, c'est marrant, mais moi, c'était toujours la partie technique individuelle. C'était toujours important pour moi. Et c'est vrai qu'on a dit, on n'a pas toujours envie d'aller entraîner, aller passer des heures à faire des passes. Donc, Raph, je pense qu'on aura pu trouver un jeu sous le ballon. Bon, comme c'est un jeu, comme c'est ludique, on se prête au jeu. Et en même temps qu'on fait le jeu, on travaille quand même plein de choses qui sont aujourd'hui révélateurs. Parce que moi aussi, j'ai appris plein de choses, aussi bien sur le cerveau, sur nos comportements, sur la partie cognitive, comment être plus performant, plus productif. Et même moi, dans ma vie personnelle, on va dire, ou tout ce qu'on fait aujourd'hui en tant que travail, ça me servait énormément. Donc, ne t'inquiète pas, Raph, on aura à faire beaucoup de passes et passer des bons moments. Et comme tu dis, Arnaud, tu as raison, on aurait devenu plus intelligent. Pas qu'en troisième mi-temps. En troisième mi-temps, on devenait intelligent, mais là, ça aurait été différent.
Raph, justement, parle-nous de ces moments de vie que vous avez eus tous les deux à l'époque du Stade français, parce qu'on va évidemment parler un peu de l'équipe de France, mais on n'avait pas prévu de parler beaucoup du Stade français, mais vous avez quand même partagé des moments, c'était la grande époque du Stade, hein, la grande période de Max. Hein.
Écoute, c'était fou, comme je dis, on voyait Brian arriver, il y a eu Nani Corletto qui arrivait derrière, il y a eu Jérôme Fiol, Rémi Martin, tous ces mecs-là sont arrivés un peu en même temps pour étoffer un petit peu la base qu'il y avait du titre 98, les Réchelles 99, puis tu as des gonces comme Brian qui sont arrivés, tu vois, tu avais, comme je dis, Brian introverti, tu vois, mais qui cassait des défenses comme moi je pouvais le faire, fut un temps un peu moins, je dirais, un peu moins long, on va dire, sur le terrain. Il y avait de tout au stade et c'est ça qui était génial. J'ai des souvenirs chez Mickey, j'en parlais encore avec Jérôme Fiol hier midi, quand on s'est tous pointés à 35, tu as toute l'équipe du stade qui débarquait chez Mickey.
C'est qui pour ceux qui nous écoutent, c'est qui
Jérôme
chez Mickey?
Ah, j'étais avec Jérôme Fiol, mais on a débarqué à 35. On sortait d'un match contre Perpignan. Moi, je m'étais pelleté le bras en faisant un bras de fer. Donc, j'étais arrivé les bras comme ça. Mais j'ai vécu cette aventure et je pense que on a tous vécu une aventure hors de l'ordinaire, dans un club hors de la norme, parce que le rugby se découvrait professionnel, avec tout ce que l'on sait, on en a déjà parlé, des pom-pom girls, des calendriers, mais aussi avec des mecs avec des personnalités complètement différentes. Et quand Max prenait la parole en début d'année, il te disait « on va être champion de France, on va être champion d'Europe » et que l'objectif principal pour s'intégrer, c'était que tous les étrangers, il y avait 12 ou 13 nationalités différentes, parlent absolument français, même les managers qui venaient. Voilà, tu avais le capitaine, c'était Max. Et puis derrière, tu avais les leaders. Et puis derrière, tu avais des mecs, comme je dis, comme Brian et Steph Glas.
Tu vois, des mecs qui sont complémentaires. Quel souvenir, toi, d'ailleurs, Brian, de cette période avec le Stade français?
C'est un peu comme Raph, il écrit. Hein, je n'ai rien écrit, Raph. Tu fais des super textes, des discours comme ça. C'est génial d'attendre et tu nous fais vraiment rappeler les bons moments. Mais quand on arrive dans un club, toi, avec Pierre, etc., vous sortez de ce groupe d'espoir aussi qui a après intégré l'équipe professionnelle. Et après, c'était un peu, je ne vais pas dire votre club, mais après, d'intégrer dans un club comme ça, on est bien accueilli, c'était facile. Après, bien sûr, quand on vit bien en dehors de terrain, tout se passait bien sur le terrain. Max qui faisait un peu à remplir les stades avec tout ce qui se passait autour. Honnêtement, en fait, c'est peut-être presque que maintenant, après, quand on réfléchit, quand on va en arrière et quand on se rappelle tous ces moments-là, quand on se rend compte combien c'était bien et l'importance que ça a pu avoir. Parce que des fois, quand on les vit en vrai, on ne pense pas. Mais honnêtement, chaque fois quand on se retrouve, comme tu dis, avec Jérôme ou d'autres, ça revient et ça reste. Et ça, c'est le côté qui est vraiment génial. On aura ça pour la vie, donc c'est bien.
Et c'est typique du rugby. C'est ce que je disais dans un des posts il y a 2-3 semaines. En fait, je disais, à partir du moment où tu as mis un pied sur le terrain, qu'en amateur ou en pro, et l'aventure est belle, en fait. Mais là, c'est exponentiel parce qu'en plus, t'es payé pour faire ce que tu aimes dans un club qui est un peu révolutionnaire. Tu vas jouer dans des stades pleins, tu es avec des bons mecs. Enfin, il y a rarement eu des gros conflits quand même au Stade français. En tout cas, derrière, les objectifs étaient clairs. Donc, En fait, c'est ce qu'on vit, mais c'est ce que tu as vécu, Arnaud, dans les petits clubs. C'est que tu le vis deux jours par semaine à l'entraînement, plus les matchs du week-end. Nous, c'était tous les jours. C'était la bouffe le midi au Prince, c'était le croche-pâte à l'entraînement. C'était... Je reviens toujours sur les mêmes trucs, mais ça parle à tout le monde.
Sauf que nous, en amateur, on n'avait pas le calendrier. Tu l'as fait, toi, Brian, le calendrier ?
Non, je n'étais pas sélectionné à l'époque. Je ne sais pas pourquoi, mais... Je n'étais pas sûrement sélectionné, mais non, c'était voilà, c'est ça fait partie des choses qui voilà, qui donnent des souvenirs incroyables aujourd'hui. Et donc c'était vraiment, on a eu la chance, je pense. Il y a pas beaucoup de clubs qui puissent avoir un parcours comme ça. Donc on a eu vraiment la chance d'avoir vécu tout ça ensemble.
Et puis Brian qui arrive, enfin. Je parlais du côté un peu révolutionnaire des gabarits. Moi, j'étais avec Aurélien Rougerie, avec Kaya Larguet, des gabarits des ailiers de plus de 100 kilos. Et là, on te voit. Alors, il y a Yannick Josion qui était un peu révolutionnaire dans le bordel, mais on te voit, Brian, quand je mets 108 kilos, j'ai arrondi à 110, mais énorme. Le mec, il vrillait des deux côtés, un coup de pied qui traversait le terrain et qui, en plus, était presque millimétré quand même. Enfin, et la classe, et une passe vissée. Pour moi, enfin, on a vu un mec avec une gentillesse hallucinante. On a l'impression que tu avais 20 ans de... 20 ans de
alors je dirais Brian, national, d'ailleurs, pour rebondir sur ce que dit Raph, tu as souvent été catalogué dans le rôle, entre guillemets, bulle de verre. En oui. fait, tu avais une technique individuelle quand même qui était assez remarquable, Raph le souligne. Est-ce que ça t'a agacé parfois d'être mis dans une case de joueur voilà, franchisseur?
C'est normal, parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu mon rôle, c'est de prendre le ballon et d'avancer, mais je ne voulais jamais être connu pour quelqu'un qui n'avait que ces dimensions dans mon jeu. Donc, c'est vrai que je passais beaucoup de temps à travailler mon technique individuelle. J'ai eu la chance de voir un entraîneur quand j'étais 18 ans ou 17 ans en Afrique du Sud qui nous a dit, si vous voulez jouer à haut niveau, il faut faire un minimum de nombre de passes par jour. Et donc, ça m'a toujours resté. Et je trouvais ça toujours plus intéressant de ne pas être capable de que faire un rôle physique, mais d'être capable aussi donc, de fixer une défense et faire les passes pour que ça arrive le plus vite à l'aile, pour que Raph fasse finir l'action, qu'il a d'ailleurs, il est très bien fait. Je me rappelle, Raph, on a intervenu aussi, on a fait une petite vidéo tous les deux, je ne sais pas si tu te souviens de ça. Il y a quelques actions entre moi et toi, et c'est vrai que sans forcément planifier, on se retrouvait pas mal entre les passes ou des actions sur le terrain, donc... Des fois, je le regarde encore et c'est toujours bien de voir ce qu'on a pu faire aussi ensemble. Donc, c'était bien.
Ah oui, j'ai ces souvenirs aussi, je les ai aussi. Donc, c'est un jeu. Ça te fout encore une petite.
Pour revenir sur ça, c'est vrai que je ne veux pas être. Voilà, de penser que j'étais que le physique. J'aime bien quand il y a certains qui. Je veux dire, des vrais supporters de rugby qui regardaient bien et qui se rendaient compte que je ne faisais pas que rentrer dans les défenses et que j'étais capable aussi, de temps en temps, de faire des passes. Donc, ça, c'est bien.
Ah, c'est vrai que tu avais une vraie qualité de passe, assez incroyable et à pleine vitesse surtout.
Alors, bon, c'est une petite anecdote, je ne sais pas si tu te rappelles, Raph, il y avait Domi, qu'on pense à lui, et on faisait une stratégie dans le match. Et en fait, j'ai une sorte de passe où je faisais, ce n'était pas un passe au football américain, c'est un non, passe que je faisais ça. Un petit peu, voilà, un petit peu en dessous les épaules. Mmh. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'arrivais à faire des passes très très longues et très précises aussi. Et on a discuté avec Domi, on avait tout un combine comme quoi on va aller partir à droite et que je retourne et que je fais un passe. Ça pouvait aller de 30, 40 mètres pour faire un passe. Et d'ailleurs, je regrette qu'on n'ait jamais vraiment fait parce que celui-là, il n'aurait été pas. Ah, c'est pas j'avais déjà fait dans les matchs, mais on n'a pas Ryan, fait sur un combi. C'était dans le match, dans le jeu ouvert.
Cette passe, tu la prenais comme ça. Il y avait toi et il y avait Mike James on avait une combinaison aussi avec Mike James où moi je prenais le ballon au centre du terrain et c'était Mike James qui lançait en touche et qui lobait la touche à la façon football américain. Je récupérais la balle au milieu. Donc on avait quand même deux artistes, tu vois, qui pouvaient te rappeler aussi au football américain en plus avec les gabarits. On va parler deux secondes quand même du 15 de France parce qu'on te reçoit aussi cette semaine. C'est parce que le 15 de France affronte samedi prochain à Marseille. L'Afrique du Sud qui vient, hein, qui l'a annoncé, hein, qui vient pour gagner en France. Est-ce que c'est toujours une rencontre particulière pour toi, je le rappelle, originaire d'Afrique du Sud, qui a joué sous le maillot français? Est-ce que ces confrontations sont toujours des moments un peu à part?
Difficile.
Ouais. Non, pas difficile. Il ne faut pas que je commence à faire des paris avec la famille en Afrique du Sud, mais je reste en dehors de tout ça. Et non, c'est un peu particulier, mais... En fait, finalement, quand on parle, j'ai encore une ou deux joueurs qui sont en équipe de France. Je ne veux pas dire qu'on est trop d'anciennes à RAF, mais on a encore peut-être Jonathan Danty qui était encore au stade français et qui commençait quand moi j'étais plutôt sur le fin. Mais ce que j'essaie de dire par là, c'est que j'ai plus d'affinité presque au niveau rugby avec l'équipe de France que j'ai avec l'équipe sud-africaine. Il y a certains moments où j'avais des copains qui jouaient pour l'équipe d'Afrique du Sud et donc tendance de les soutenir peut-être plus en tant que personnel que vraiment l'équipe sud-africaine ou l'équipe de France. Donc, on va dire, à niveau rugby, je penche plutôt côté français. Ce n'est pas parce que je ne suis pas sud-africaine, j'y serai toujours et j'ai toujours mon accent, hein, ça n'a pas changé. Voilà, des fois, on soutient un petit peu les gars qu'on connaît ou qu'on côtoie ou qu'on connaît plus personnellement qu'une équipe qui est pour moi presque des fois assez lointaine avec des joueurs que je ne connais pas personnellement. Voilà, mais en règle générale, j'ai toujours un côté sud-africain, c'est vrai.
Et quel regard aujourd'hui tu portes sur ce 15 de France, et aussi sur Fabien Galthié, parce que ça a été notre entraîneur et ton entraîneur aussi au Stade français. Oui. Moi, personnellement, je n'en ai pas gardé un très, très bon souvenir. Les gens le savent. Et toi, justement, je pense que ça se passait plutôt bien avec
oui, Fabien. Oui, pour ceux qui l'ont côtoyé, jouer avec ou être comme nous, entraîné par Fabien, on sait le compétiteur qu'il est. Et donc, je pense aussi, je pense que ça doit être pareil. Bon, je n'ai pas beaucoup entraîné, on va dire comme ça, mais je pense qu'avec les années d'expérience et les expériences qui lui ont amené à être en équipe de France aujourd'hui, ça doit lui servir de quelque part dans son façon de manager, dans sa façon de voir des choses, dans ses choix de joueurs, plein de choses. Donc, je pense que Fabien, aujourd'hui, il a ramené quelque chose, bien sûr, positif. Je pense qu'il a des joueurs sous lesquels il peut compter et honnêtement, l'équipe comme il joue, la qualité des joueurs qu'on voit aujourd'hui. J'en parlais aussi ce week-end. J'ai dit, bon, quand on parle, c'est presque aussi, c'est des amis de longue durée. Ils sont grandis ensemble presque. Et ils incarnent tout ce qu'on aime dans le rugby. C'est l'amitié de jouer pour des copains, de jouer pour le meilleur. Et je retrouve ça. Et donc, Fabien, il est à la tête de tout ça. Et donc, je pense que ce qu'il fait, les choses qu'il a mis en place et les résultats qu'il commence à voir, qu'il a, c'est vraiment encourageant pour nous tous.
Tu l'as eu en tant qu'entraîneur justement à ses débuts au Stade français. Peut-être qu'il n'avait pas fait le deuil du joueur qu'il était. On pourrait l'expliquer aussi de différentes manières. Mais aujourd'hui, Fabien, force est de constater qu'il a, comme tu le dis, su se remettre en question, s'entourer aussi des bonnes personnes. Parce qu'autant sur le terrain, les joueurs font partie de la même génération, mais il s'est entouré de joueurs issus de sa génération aussi, les Raphaël Ibanez, les Laurent Labitte, qu'il connaît bien aussi. Est-ce que le poste de Fabien de sélectionnaire n'est peut-être pas le poste idoine qu'il lui fallait? Et peut-être que le fait d'avoir des joueurs alors plein potentiel pendant quelques semaines, plutôt que d'avoir les mecs pendant 10 mois, 7 jours sur 7, est-ce que ce n'est pas le poste qu'il lui fallait?
Oui, je pense. Après, les moyens en équipe de France, ce n'est peut-être pas forcément les moyens qu'ils puissent avoir dans un club. Et c'est vrai qu'il y a un contact plus longtemps ou sur une durée plus longtemps dans des clubs. Encore une fois, on va répéter que c'est un compétiteur. Lui, il veut des résultats, il veut gagner, donc il est prêt à tout faire pour ça. Donc aussi, peut-être des fois avoir un Rafa Libanez qui est à côté de lui ou d'autres entraîneurs qui va s'occuper les parties spécifiques dans le match. Fabien, il dirige en haut et les autres, il va le ramener tout ça. Donc je pense que c'est bien parce que ça ne peut pas être individuel non plus. Et des fois, je pense que quand tu essaies de tout faire toi-même dans une situation de club, où il doit faire plusieurs choses et qu'aujourd'hui il est libéré de tout ça avec d'autres personnes autour de lui qui le suit et qui le soutiennent. Je pense que voilà, on voit les résultats, Raph. On voit que l'équipe de France, on a l'impression qu'il vit bien, ils ont des résultats qui vont avec, donc tout est dans un cercle positif. Donc c'est vachement important en ce moment de voir ça l'année prochaine.
Alors justement, Brian, bon, je t'apprends rien, mais l'Afrique du Sud est championne du monde en titre. Je pense que tu as dû ouvrir une petite bouteille ce jour-là, puisque l'Afrique du Sud a été championne du monde au Japon en 2019. Mais c'est surtout le seul adversaire que l'équipe de France, sous l'ère Fabien Galthié, n'a pas encore rencontré et n'a pas encore battu. Est-ce que pour toi, c'est le test ultime pour cette équipe de France dont on dit qu'elle est favorite pour le Mondial 2023?
Oui, c'est sûr que ça va compter, mais le test a déjà commencé samedi soir contre les Australiens. Et là, on a vu que bon, ils ont bon, il y a peut-être un peu de ça. On aura fini peut-être avec une défaite. Là, on commence à avoir plus de confiance. Il faut qu'on passe. Bon, en anglais, on dit test match. C'est des épreuves. Il y a des matchs qui testent nos compétences d'aller jusqu'au bout et emporter des matchs. Donc celui-là, c'est vrai que c'est champion du monde en titre. On connaît l'équipe sud-africaine qui sont souvent, très physique, et qu'après, aujourd'hui, ils arrivent à aussi marquer des belles essais par des jeux de trois quarts. Donc là, pour l'équipe de France, honnêtement, moi, je serai très content de voir ça parce que c'est vrai, encore une fois, c'est un test. On va se mesurer contre une équipe qui est championne du monde et qui joue très, très bien. Donc, c'est toujours important de voir ces matchs-là pour savoir où se situe l'équipe de France, qu'est-ce qu'il faut qu'ils améliorent. Mais voilà, donc un test ultime, oui, je pense qu'on peut se rapprocher à ça. Moi, maintenant, pour les test matchs de novembre, ce sera vachement important de voir comment ça va se passer samedi soir.
Justement, où tu situes l'équipe de France aujourd'hui par rapport à l'Afrique du Sud? L'Afrique du Sud qui sort d'un Four Nations comme l'Australie. C'est pour ça que je disais un petit peu de tolérance sur cette équipe de France qui vient de se réunir il y a à peine 10 jours, alors que voilà, les Sud-Africains sont quand même sur une lancée avec cette génération championne du monde, on vient d'en parler. Où tu situes le 15 de France par rapport à l'Afrique du Sud aujourd'hui? Là, j'imagine qu'entre les deux, ton cœur balance.
Oui, non, ça ne balance pas.
J'ai noté une chose, Brian, quand il parle de l'équipe de France, il dit encore « on ». Ce qui est quand même plutôt chouette.
D'accord, je ne vais pas rendre compte, mais c'est
vrai. Le cœur ne balance pas, très bien.
Non, c'est peut-être on est exigeant avec l'équipe de France maintenant parce qu'on est un peu gâté peut-être, parce que les derniers résultats ou les performances qu'ils nous donnent, après on s'habitue vite à des prestations que des fois ils sont un peu hors normes. Voilà, on oublie qu'on va tomber sur des équipes qui ne sont pas forcément aussi bien, parce qu'on est gâté quand même sur pas mal de postes. Mais je pense que là, on va jouer en France. Ça peut être pour et contre. Après, les quatre nations, c'est vraiment un haut niveau de rugby. Quand tu joues contre l'Australie, l'Argentine, même là, on a vu qu'ils ont battu les Anglais. C'est compliqué là. Donc, ils sortent de quatre nations, ils viennent en France. Vous savez bien que je ne sais plus combien de semaines il va partir de loin de chez eux. C'est des tournées qui sont difficiles. On sait que chez eux, c'est l'été. Des copains, ils sont en vacances. Là, nous, on se retrouve dans l'hiver européen. Il faut jouer contre les équipes que tout le monde veut battre, aussi bien l'Afrique du Sud que l'Australie, etc. Donc, non, c'est compliqué. Mais pour revenir à ta question, Raph, excuse-moi, mais je pense que l'équipe de France, c'est quand même. Ils ont forte chance de se montrer qu'ils sont à l'égalité, voire des joueurs de qualité un peu plus que l'Afrique du Sud, on va dire, sur une tournée comme ça. Sans parler l'année prochaine pour la Coupe du Monde. Mais là, maintenant, je pense qu'il peut se croire, il peut avoir confiance en eux, dans tout ce qu'ils ont mis en place maintenant, tous les résultats qu'ils ont. Et c'est ça qui est important, c'est petit à petit d'engranger. On dit que c'est des équipes pour préparer, on parle toujours de Coupe du Monde. Il faut plein de petites expériences, des matchs qui vont les amener à être prêts pour un tournoi qui est comme la Coupe du Monde. Donc, toutes ces choses-là, ils peuvent aujourd'hui, à mon avis, être très confiants dans ce qu'ils ont mis en place, les joueurs qui sont des sélections des joueurs et ceux qui mènent l'équipe en leur qualité d'aller affronter les Sud-Africains sereinement.
Brian, on l'a dit, tu comptes 12 sélections hein, avec le 15 de France, quelques belles victoires. Mais tu n'as jamais affronté l'Afrique du Sud avec le maillot du 15 de France. Est-ce que ça aurait été un moment difficile pour toi si ça s'était présenté?
Non, c'est vrai que ça, bon, je n'ai pas beaucoup de regrets sous ma carrière, mais ça, c'est en est un. C'est vrai que,
t'aurais aimé?
Si je me rappelle bien, c'était en 2005 où l'équipe de France, ils sont partis jouer en Afrique du Sud. Donc, il y avait un test match à Durban et au Cap. Et c'est vrai que si j'avais pu avoir été sélectionné pour ce tournoi-là, ou 2004, je ne sais pas, c'était dans des années là-bas, mais bon, malheureusement, je crois que j'étais blessé et après plus sélectionné. Mais un des seuls que j'aurais aimé jouer, c'est vrai que ça aurait été contre les Sud-Africains, parce que ça aurait été particulier en étant Sud-Africain, en étant joué pour l'équipe de France contre mon pays de naissance. Ça aurait été un moment fort, donc un petit regret à ce niveau-là, mais sinon, pas grand-chose à regretter à ce niveau-là.
Alors justement, Paul Willemse qui est lui aussi d'origine sud-africaine, est forfait pour cette rencontre. Est-ce que tu penses que, comme toi, tu l'as vécu, comme tu le disais, il y a 17 ans maintenant, est-ce que c'est un déchirement pour lui de ne pas pouvoir affronter les box ou plutôt un soulagement, même
c'est,
si…
C'est sûr. Je connais Paul, je l'ai déjà vu plusieurs fois, donc on discute un petit peu, mais c'est sûr. Déjà, je pense une grosse déception qu'il ne puisse pas jouer pour l'équipe de France, parce que bon, Paul, si on le connaît, je pense que… Tu as parlé gentiment de moi, mais Paul aussi, c'est vraiment quelqu'un de bien. Et quand tu le suis, tu sens qu'il joue avec beaucoup de passion. Et même si c'est contre le Pays de Galles, l'Angleterre, l'Irlande, peu importe, on sent vraiment qu'il se donne à fond chaque fois. Encore plus s'il avait la chance de jouer contre les Sud-Africains. Mais je ne m'inquiète pas pour Paul. Il va revenir et il aura d'autres occasions d'affronter l'équipe sud-africaine un jour ou l'autre, je suis sûr.
D'ailleurs, Brian, une petite question. Comment vous êtes perçu aujourd'hui depuis l'Afrique du Sud, vous, les joueurs sud-africains qui avez porté le maillot d'une sélection entre guillemets étrangère? Est-ce que vous êtes considéré comme des traîtres ou pas du tout?
Pas du tout. Moi, dans mon expérience, moi, pas du tout. Et même, je pense que Paul ou des autres joueurs qui ont porté le maillot de l'équipe de France, on n'a pas ce sentiment-là. Donc, voilà. Donc, il y a des joueurs qui sont sélectionnés pour d'autres pays, ça est devenu pas forcément si c'était exceptionnel, peut-être, ou encore peut-être, si c'était un joueur qui est déjà… Alors, en fait, C'est-à-dire que si c'est un joueur qui jouait pour l'équipe d'Afrique du Sud et qu'après il part jouer pour l'équipe de France, qu'on sait tous, c'est impossible. Là, je pense qu'on aurait été vu un peu plus comme un traître ou quelqu'un qui bascule pour jouer pour une autre équipe. Mais comme on n'est jamais représenté, comme on n'a jamais été au niveau international en Afrique du Sud, on est considéré un peu moins des traîtres.
Et est-ce que ça donne des regrets? Est-ce que parfois les entraîneurs sud-africains, je ne sais pas, est-ce que tu as une anecdote par rapport à ça, des entraîneurs sud-africains qui sont venus te voir en disant « Purée, on a raté quelque chose, pourquoi on ne t'a pas sélectionné ou... » Est-ce que ça peut arriver, ça?
Moi, un peu moins. Peut-être après d'autres joueurs qui ont déjà fait pas mal de leur carrière ou la moitié de leur carrière en Afrique du Sud s'ils arrivaient à 25, 26 ans en France. Mais comme la plupart aussi, on arrive quand même assez jeune. Moi, j'avais 18, 19 ans, donc presque, si ce n'était pas que l'entraîneur que j'avais au Chartres à l'époque sur l'équipe, moi, 21 ans, il n'y avait pas vraiment beaucoup de monde qui me connaissait. Donc, ils m'ont découvert un petit peu après quand j'étais sélectionné en 2003 pour la Coupe du Monde. Mais sinon, personne, au moins pour ma part, à moi, personne ne me connaissait. Donc, non, personne n'a rien dit.
Brian, pour ce week-end, match à Marseille, tu seras pour qui alors, le 15 de France ou les Springboks ou... C'est des rencontres qui restent particulières pour toi.
Oui, là en plus, l'équipe sud-africaine vient de perdre en Irlande. Encore une fois, on va dire que c'est les compétiteurs. Ils tiennent vraiment au cœur de toujours être compétitifs et ils y seront samedi soir à Marseille. Je serai pour l'équipe de France, Raph. Je serai pour eux samedi soir. Et donc, voilà, une équipe sud-africaine revanchard qui va venir essayer de comment dire, de chercher un résultat, au moins en France. Mais il faut dire aussi, je pense en général, le stade de Marseille, ça lui réussit quand même assez bien pour l'équipe de France. Donc, je pense qu'ils ont bien choisi l'endroit pour recevoir des Sud-Africains. Et normalement, ça devra bien se passer samedi soir.
Tu avais joué, toi, à Marseille, il me semble, Brian.
Je jouais à Marseille, oui.
T'en gardes quel souvenir?
C'était génial parce que bon, l'anecdote aussi, c'était je vais contrer un drop aux dernières minutes pour qu'on puisse emporter le match. Mais après d'autres matchs, quand je regardais aussi en spectateur, je me rappelle, bon, c'est le joueur qui vient en tête, c'est Olivier Magne, je crois, avec son casque qui marque un essai contre les Blacks à l'époque aussi. Et donc, c'est vraiment un stade où, un peu particulier, un peu, je ne sais pas si c'était d'être à Marseille, le stade qui est différent, ça change un petit peu, mais ça réussit toujours l'équipe de France là-bas. Donc, non, je pense que ça va être un bon match. Les matchs aujourd'hui, en fait, c'est tellement, les équipes, ils sont tellement serrées presque, mais voilà, je penche plutôt côté français pour cette rencontre-là, même si ça ne va pas être facile. On connaît l'équipe sud-africaine qui ne lâche rien, qui sont vraiment, on va répéter encore, mais très, très physique. Donc, déjà, ça sera, encore une fois, ça revient sur le mot que j'ai dit tout à l'heure, un test match pour l'équipe de France, de se mesurer contre une équipe sud-africaine qui aussi a des bonnes qualités un peu partout sur le terrain.
Juste pour conclure, Brian, et ça, c'est pour lever une énigme que beaucoup de gens qui vont nous écouter se posent, d'une question que les gens se posent. Tu l'as évoqué un petit peu brièvement tout à l'heure, tu as entraîné, tu as eu quelques expériences d'entraîneur à Périgueux, à Sète, tu fais beaucoup de formations avec ton ballon. Pourquoi ne pas avoir continué dans cette direction?
Parce que je pense, pour plusieurs raisons, quand j'ai arrêté de jouer, il me fallait un break. Je pense que c'était un moment que de couper un petit peu avec le monde professionnel de rugby. Et aussi découvrir autre chose, bon, c'est de rentrer, retourner à travailler, à partager avec le monde amateur, je tenais à cœur, donc ça je le fais. Et maintenant, en fait, aujourd'hui je suis plus prêt ou plus apte à revenir, à aller rechercher. Je pense qu'avec Raph aussi, on a aussi, quand on a connu le haut niveau, on aura ça en nous pour toujours. Et donc aujourd'hui, je suis prêt à revenir pour aider. Moi, ce qui aime, c'est de pousser les limites, d'aller voir qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer, comment on peut avancer pour être plus performant sur les terrains. Donc aujourd'hui, je crois que j'ai créé quelque chose qui est unique, qui est à part et qui peut amener quelque chose qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de préparation mentale. C'est dans le cerveau aujourd'hui où on peut faire beaucoup plus de progrès que si on regardait que la partie préparation physique ou nutritionnelle. Donc là j'ai peut-être aussi un peu plus de confiance en moi avec quelque chose que j'ai, de ramener et apporter quelque chose vraiment utile à le monde, déjà en tant que sportif pour la performance, mais je ne vais pas aborder, mais avec Dr Jean-François Sherman qui nous a conseillé sur tout ce qu'on a fait sur la partie commotion cérébrale, qui devient aussi quelque chose d'important dans le sport en général, qui on puisse aussi amener ce côté-là pour les sportifs, un outil supplémentaire pour pour, on va dire, combattre un petit peu cette problématique qu'on a aujourd'hui dans le monde du sport et du rugby en particulier. Donc, voilà, j'ai hâte.
C'est génial.
De fois, j'ai eu les possibilités de travailler un peu avec des équipes, pas longtemps, mais aujourd'hui, j'espère que j'aurai quelques portes qui va m'ouvrir pour que je puisse apporter quelque chose de nouveau.
On y vient, Brian, on y vient. Tu sais, tu connais mon amour du coaching mental. Pour moi, voilà, on a eu la génération d'avant, justement, qui a fonctionné d'une certaine manière. La nôtre aussi, voilà, qui est purement professionnelle, la tienne, la mienne. On a découvert, justement, les certaines limites du corps, mais on n'a pas encore trouvé les limites du cerveau. Donc, à la fois, ton projet, ce qui est génial, c'est qu'il est à la fois préventif, justement, sur les commotions, et il est aussi sur la performance. Parce que le jour où on arrivera à comprendre, justement, que le cerveau peut te permettre d'être encore plus performant, en plus avec la notion de plaisir, comme tu nous le partages sur ce nouveau projet, je trouve ça absolument génial. Tu reviens avec de la confiance, ça se sent. Moi, la dernière question que je vais te poser, c'est aujourd'hui, ce projet-là, tu l'amènes pour qui sont tes interlocuteurs les privilégiés? Sont les clubs, les fédérations, c'est tout sport confondu?
Je présente en mois de décembre dans une grande conférence, ce sera les fédérations et les staffs médicaux qui sont intéressés dans ce que je propose ou ce que l'outil qu'on a et le protocole qu'ils ont mis en place avec le docteur Sherman. Donc oui, ce sera les clubs, tout simplement parce que comme on fait aussi bien un parti santé, parce qu'on a un parti pour les kinés, les préparateurs physiques, aussi bien pour les joueurs individuellement, et potentiellement aussi pour les clubs en général qui veulent se pencher sur ce fameux développement cognitif ou le cerveau. Donc, en fait, on a un petit panel des choses, des domaines dans lesquels on peut intervenir. Et donc, c'est bien avec le même outil d'être capable de traiter plusieurs choses dans un même club ou dans un même championnat. Comme je disais tout à l'heure, on a le basket, la hand et le foot aussi sur lequel on travaille. Donc, voilà, ce sera soit des clubs individuels. On espère peut-être si c'est un problème plus comme la commotion cérébrale qui touche un petit peu tout le monde, que ce sera peut-être pris par la Ligue ou la Fédération. Ça, c'est à voir. Aujourd'hui, on est dans une partie présentation, on finalise tout et à voir comment on peut faire pour avoir un meilleur impact sur les sportifs ou des clubs dans un temps près là, qui va arriver très, très vite.
Prochaines échéances, en tout cas. En tout cas, on suivra ça et puis on vous mettra le lien, évidemment, de Catch and Think Academy sur les réseaux de Poulain Rafut. Comme ça, si les gens sont curieux et ont envie d'en savoir un peu plus, ils pourront découvrir cette belle initiative. Messieurs, ça va être l'heure de se quitter. On va enchaîner après avec la troisième partie, mais il y a toujours un petit mot de la fin. Raph, on a eu un certain nombre d'invités, des plus peut-être prestigieux que Brian, mais j'imagine que de retrouver Brian, c'est quelque chose d'un peu particulier aussi pour toi.
La classe, tout simplement. Moi, j'aime beaucoup Brian. Moi, je l'appelais Brian à l'époque parce qu'il y avait les frères Brian qui jouaient au tennis. On avait été les voir à Roland-Garros. Et quand on entendait gueuler dans les tribunes, Brian, maintenant, je l'appelle Brian. Ça fait 20 ans que ça dure et ça continuera jusqu'au bout. C'était pour une petite anecdote, mais voilà, il y a une belle, belle complicité. Et comme je dis, tu ne t'embrouilles pas avec Brian. Voilà, c'était posé. Je suis ravi de te revoir. En tout cas, ravi de voir que ton projet avance bien. Et puis, moi, avec l'association que je suis en train de monter, je pense qu'on sera complémentaires. Donc, on sera amené en off à se recontacter, Brian, pour peut-être avancer ensemble et proposer cette révolution du coaching mental dans le monde du sport et bien au-delà. Donc, j'étais ravi de passer ce moment-là avec vous, les gars. Top.
Oui. Moi aussi, Arnaud, Raph, à toi aussi. Donc, moi, je l'appelle au retour Raph. Et donc, voilà, c'est surtout sympa de voir ça. Ça reste Raph. C'est bien de voir que tu ne changes pas. Tu es toujours, voilà, c'est pour moi aussi un grand plaisir de vous retrouver. C'est vrai que j'étais un peu silencieux, pas silencieux, mais on n'a pas toujours l'occasion de se croiser ou de voir dans des événements, etc. Donc, ça fait plaisir de vous inviter et que je puisse discuter avec vous un petit peu. Ça fait toujours plaisir. Donc, merci pour ce bon moment.
Merci. C'était un grand plaisir, Brian. Merci beaucoup. Et nous, on va poursuivre évidemment avec la troisième partie de Poulain Rafut. Allez, troisième partie de Poulain Rafut. On va débriefer ensemble, hein, Raph, évidemment, cette interview avec Brian Liebenberg. Moi, j'ai quelques souvenirs de lui. C'est vrai que sacré physique, mais surtout une qualité technique exceptionnelle. Et puis surtout, ce qui m'a marqué, Raph, dans l'interview, tu vas me dire ce que tu en penses. Brian Liebenberg, sud-africain, né en Afrique du Sud, mais 12 sélections avec le 15 de France. Quand il parle de la rencontre France-Afrique du Sud, quand il parle du 15 de France, il dit « on sent que c'est un amoureux de l'équipe de France. On voit que samedi soir, il l'a dit, hein, il sera derrière les bleus de Fabien Galthié. Il s'est installé en France, il développe tout son projet en France. C'est quelque chose qui doit particulièrement te faire plaisir, non ?
Comme je te dis, nous, on a vu arriver Brian, on ne savait pas s'il jouait troisième ligne, ailier, au centre, enfin, il peut jouer tous les postes. Et puis surtout, cette gentillesse. Brian, il arrive, il a 21 ou 22 ans, en fait, en France. Il était passé, je pense, un an ou deux par l'Italie. Il arrive au Stade français avec une génération de mecs voilà, énormes, on en a parlé. Et aujourd'hui, ça fait 25 ans qu'il habite en France. Donc voilà, il habite vers 7. Donc, il est naturalisé français, il est tout aussi français que toi et moi. Et puis, il est amoureux de la France. Il a vécu une aventure extraordinaire avec le stade, avec l'équipe de France aussi. Et puis, aujourd'hui, il a fait le deuil du joueur qu'il était. Il arrive justement avec ce joli projet. Et je le rappelle, hein, ce ballon, c'est une vraie révolution. Donc, Brian, à l'image du joueur qu'il a été, talentueux, ouvert, respectueux, et tu ne t'embrouilles pas avec Brian. Et donc, ça ne m'étonne pas qu'il soit amoureux de ce maillot, qu'il supporte l'équipe de France. Et aujourd'hui, sa vie est en France.
Allez, Raph, on va faire un petit flashback. Il y a 15 jours, on a eu la chance de recevoir Philippe Sella. Une émission, on a longuement évoqué hein, la maladie que l'ancien trois-quarts centre international a combattu. C'était le cancer de la prostate. On avait également échangé avec Stéphane Beaumont, l'ambassadeur Movember, en France, et tu voulais revenir sur cette opération car il y a un film en cours de sortie et tu voulais en parler.
Ben, je voulais en parler parce que j'ai eu Stéphane en fait il y a 2 jours. L'émission a super bien fonctionné et justement ça nous pousse justement à vous pousser messieurs justement à aller vous faire dépister encore. Et j'ai eu Stéphane il y a 2 jours en fait qui est quand même l'ambassadeur Movember en France. On le rappelle, c'est pour le dépistage des cancers de la prostate, des testicules, des dépressions aussi. Ben, en fait, il m'a laissé un message il y a 2 jours. Il me dit Raphaël, on te file en exclusivité vu que c'était adorable de m'avoir invité pour parler justement de cette prévention en exclusivité. Le film de la prévention du cancer de la prostate. Donc, bien, messieurs, dames, en exclusivité, on vous balance la vidéo. C'est maintenant. Et surtout, tu l'avais bien conclu la dernière fois, allez vous faire dépister.
Et oui, j'ai de la chance. Je suis le seul homme au monde à avoir ma prostate sur le front. Et je vous garantis que ça change la vie.
Je fais toujours attention à ce qu'elle soit impeccable. C'est vital.
Ah là là, mon filou! Quelle belle prostate!
Et puis, il faut dire qu'avec une prostate sur le front, je suis vraiment le centre de l'attention. Avec cette particularité, vous n'imaginez même pas le succès fou que j'ai. Une star. Je suis vraiment chanceux. Tout le monde m'adore.
Oh, ça va, mon filou? Grossit ta prostate, non?
La véritable chance de Filou, c'est de pouvoir toujours garder un œil sur sa prostate. Vous ne la voyez peut-être pas, mais ce n'est pas une raison pour l'oublier. Le cancer de la prostate tue un homme toutes les heures. Parce qu'un diagnostic précoce augmente les chances de guérison. Dès 50 ans, parlez-en à votre médecin traitant.
Alors, vous pourrez retrouver évidemment le lien hein, sur les réseaux de Poulain Rafut. Juste pour conclure, Raph, parce que tu étais devant ton téléviseur samedi matin pour assister à la demi-finale hein, de la Coupe du Monde féminine entre la France et la Nouvelle-Zélande. Défaite cruelle pour nos Bleus d'un tout petit point, 25-24. Tu voulais avoir une pensée pour les filles du 15 de France et notamment Caroline Drouin hein, qui a raté cette dernière pénalité.
Arnaud, tu le sais, c'est le sport, hein, ça se joue à rien. Un exploit de Penaud, tu vois, le soir même et le matin, cette pénalité, oui, qui est à 35 mètres, mais t'es fatigué. C'est là, je pense, la 77e ou 78e minute. On l'a vu complètement anéanti à la fin du match. Et puis, tout de suite, les joueuses qui ont été autour d'elle. Et puis, derrière, ce que j'ai remarqué en épluchant un petit peu les réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a pas eu de réaction à la con. Tu vois, je suis parfois très vindicatif par rapport aux réseaux sociaux. Mais là, il y a eu beaucoup de respect par rapport à cette jeune femme. Et puis derrière elle, toute l'équipe de France, de ces joueuses, en fait, qui sont tombées sur des All Blacks chez elles. Ça s'est joué à un point. Ça nous rappelait aussi la finale perdue contre les All Blacks en 2011 avec Victor Vito et Keno, bien sûr, sur le terrain. mais voilà, donc bien sûr qu'on a une pensée pour les joueuses qui vont jouer la troisième place. Et bah, écoute, moi, je m'engage à essayer de pouvoir l'inviter, justement. On essaiera de l'inviter dans les semaines à venir pour qu'elle puisse nous parler de cette expérience qui peut être traumatisante, mais voilà, je pense qu'elle est bien entourée et c'est le sport. Voilà, je pense que c'est le sport. La France aurait pu perdre ce match contre l'Australie. La France aurait pu gagner ce match contre la Nouvelle-Zélande. Et ben, parfois, ça ne nous sourit pas en espérant que voilà, l'avenir, ça leur sourira.
En tout cas, on aura encore un joli week-end tricolore hein, le week-end prochain. Donc, le match pour la troisième place de l'équipe de France féminine. Et puis, samedi soir, ce France-Afrique du Sud, 21h à Marseille. Tous derrière vos écrans ou tous au stade, évidemment. Raph, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve, évidemment, la semaine prochaine, toujours avec la banane.
Toujours avec la banane. Merci beaucoup Arnaud et je tiens aussi à remercier Seb qui a la réalisation. Seb Petit qui est journaliste à Eurosport, messieurs, dames. Et je vous souhaite en tout cas un bon week-end rugby. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, éteignez vos GSM, regardez par la fenêtre, la vie est belle. Allez, ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.